La mathématique de Dieu est bizarre. Quand on voit en effet l'apôtre Paul dire qu'il est le plus grand des pécheurs, bon, on se dit c'est vrai, comme le dit Greg, bon, moi je suis donc forcément moins pécheur que Paul. Mais la mathématique de Dieu, c'est que nous sommes tous les plus grands des pécheurs. Et que, bizarrement, il n'y a pas de relation d'ordre là-dedans. On est tous, quand on se regarde devant Dieu, au même point, quoi. Hein, on est le plus grand des pécheurs. Je le confesse aussi, moi aussi je suis le plus grand des pécheurs. Je voudrais faire le lien avec tout ce qui a été dit, c'est un peu difficile et en même temps c'est facile. Ça va un peu dans le sens, je pense, et puis en fait je vais répéter simplement ce que Paul a dit dimanche passé, vous voyez, donc je vais simplement que répéter Paul. Et en fait il y a une dualité, il y a quelque chose qui doit être bien perçu chez nous, chez moi, et qui est difficile parfois. Quelquefois, l'ennemi arrive à nous faire perdre le fil des choses. Alors, en fait, on a parlé de allons de l'autre bord. Hein, il y a deux bords. Hein. On a parlé aussi de le premier amour, hein, du premier amour, et on s'aperçoit qu'il peut y avoir un premier amour et un deuxième amour. Hein, il y a plusieurs amours. Et dans toutes ces choses qui ont été dites, je crois qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de ce que je veux vous dire. Et j'aimerais bien que réussir à vous transmettre la chose, mais j'ai l'impression que je suis incapable, hein, de le faire. Alors, faites un effort, s'il vous plaît. Voilà, je vais commencer par vous parler d'une discussion que j'ai eue il y a déjà longtemps avec un ami et qui est aviateur. Enfin, il n'est pas aviateur, pilote, mais il était au ministère des Transports et de temps en temps, il avait besoin de renouveler son carnet d'accréditation pour pouvoir piloter. Hein. Donc, il pilotait pas beaucoup, il était dans les hautes sphères, bon, bref. Bon. Et il dit, tu sais, tiens, ce qui s'est passé, il dit, voilà. Il dit, le péché, c'est ça. Il dit, notre façon de faire ou de nous comporter, c'est ça. Je vais t'expliquer. Voilà. Je te remercie. Voilà, je devais donc piloter, hein, donc je démarre, hop, Villa Coublay, je crois, je ne sais plus, un truc comme ça, c'était en région parisienne, et puis voilà qu'il monte en avion, et puis il voit une autoroute, et il dit, ah, ça c'est l'autoroute, disons A117, hein, bon, hop, puis il commence il avait son plan de pilotage, il continue, puis... Puisque ça, c'était l'autoroute A117, l'autre autoroute qu'on voyait là-bas, parce que les pilotes, parfois, ils naviguent pas aux instruments, ils naviguent simplement à la vue, et là, c'est ce qu'ils faisaient. Il dit, donc, ça, cette autoroute-là, c'est l'autre autoroute, machin, bon, bref, d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Et vous devinez ce qui se passe. C'est que, dès le départ, il s'était trompé. C'était pas la A117, c'était autre chose. Voilà. Et donc, il avait des instruments de bord, et ces instruments de bord, il disait, tiens... Tu t'en vas vers le nord. Puis, mais non, on va vers le sud. Et puis les instruments lui disent de plus en plus de trucs. Alors, il s'est aperçu que, enfin, il ne le savait pas à ce moment-là, mais en commençant par faire une erreur, il a cumulé les erreurs au point qu'à un moment donné, il s'est trouvé dans une situation un peu enquiquinante, un petit peu dangereuse. Il n'était plus dans son plan de bord. Et dit, tu vois, Étienne, c'est ce qui se passe, et on en discutait. Nous sommes certains. De nous. On est certain, je suis certain, quand même, je suis responsable, je suis pilote d'avion, hein, donc je suis certain, je ne me remets pas en cause. Mon jugement, je ne me le remets pas en cause, et donc à cause de ce manque de remise en cause, j'étais à deux doigts de faire quelque chose de dangereux. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est dans Marc chapitre 5, verset 36 que vous connaissez. C'est un homme qui est désespéré. Sa fille va mourir, il s'appelle Jaïrus. Et puis, il y a juste quelqu'un là qui vient et qui touche le maître. Et le maître, ben, il met du temps. Et puis, tout d'un coup, ses serviteurs arrivent et disent, tu sais, c'est plus la peine. Ta fille est morte. Et vous imaginez le père, ta fille est morte. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il l'attrape par l'épaule, il dit, ne crains point, crois seulement. Je sais pas si moi j'aurais ma petite fille qui serait comme ça. Hein, bon, vous voyez, j'imagine le père. Comment il a pu réussir à ne pas craindre et à croire seulement? Donc vous avez une dualité là aussi. C'est ne pas craindre et croire seulement. Une dualité. Première chose, hein, c'était mon pilote. Hein, il avait confiance en lui et il avait trop confiance en lui. Et puis, un troisième exemple, c'est un exemple que Émile nous a évoqué il y a quelques semaines, il était près d'un serpent avec son fils. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, il nous a expliqué, mieux que je vais vous le faire. Mais à un moment donné, il dit à son fils, mais quand le danger est passé, il dit, mais toi, t'as pas eu peur, fiston? Et puis, le fils, il dit, non. Hein. Parce que tu étais là, papa. Donc, il était dans une position de stress, c'était dans cet enfant, mais il faisait confiance à son père. Voilà. Ça, c'est les exemples que je vous prends pour introduire ce que j'ai à cœur de vous dire. Alors voilà, on revient dans le passé maintenant, hein. Très loin dans le passé, dans une région du monde qui s'appelait Délice. Dieu planta lui-même un jardin, hein, harmonieux, parce qu'il nous est décrit ce jardin comme étant très harmonieux. Il fit pousser des arbres qui étaient non seulement beaux à regarder, mais qui étaient aussi bons à manger, hein, vous savez. Alors, au milieu du jardin, juste au milieu, Dieu a mis un arbre. Quel arbre? Quel était son nom à cet arbre? C'était l'arbre de la vie, bravo. Ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était donc l'arbre de la vie qui était central. L'arbre de la vie. On n'en parle pas beaucoup de l'arbre de la vie, on parle beaucoup de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais bon, l'arbre de vie, oui, on en parle, mais pas tellement par rapport à l'autre. Hein. C'était l'arbre de vie. C'était lui qui était au milieu du jardin. Et vous me direz, mais pourquoi un arbre de la vie? Parce que, si je comprends bien, la vie existe déjà, hein, sans cet arbre. Ça veut dire qu'il y a différentes sortes de vie. La vie animale, la vie végétale, et quelle autre vie donc? Eh bien, la parole de Dieu ne nous cache pas du tout l'autre vie en question. C'est celle de l'arbre de vie, au milieu du jardin. Une vie supplémentaire à la vie, si vous voulez. Ça paraît bizarre, même aujourd'hui, on parlait comme ça des gens... disons profanes, ils diront c'est pas très très cohérent votre affaire. Pour nous, ça parle plus, hein. Voilà. Quelque chose que tu ressens au fond de toi, comme Adam et Ève le ressentaient, le besoin d'une vie supplémentaire, le besoin d'une vie, alors qu'on est vivant. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce jardin? Dieu avait-il abandonné le summum de sa création, l'être humain? Hein, comme certains voudraient bien nous le faire croire, hein, comme Voltaire qui dit bon, « Dieu nous a oubliés, et puis maintenant débrouillez-vous hein. ». Pas du tout. Dans Genèse, au chapitre 3, au verset 28, Moïse nous révèle, que Dieu parcourait le jardin le soir. Dieu parcourait le jardin le soir, et donc, tous les jours, l'être humain avait droit à sa petite dose de communion avec Dieu, qui est esprit. Et l'homme qui est corporel, une communion spirituelle avec Dieu, qui est esprit et vie. De plus, si Dieu venait le voir, l'arbre de vie, lui, était présent toute la journée. Donc, même si Dieu n'était pas là, sauf le soir, l'arbre de vie était en permanence dans le jardin. Et comme on le voit dans le verset 22 du chapitre 3, quand ils ont péché, Dieu dit, empêchons donc l'homme de prendre de l'arbre de vie, parce qu'il va avoir une vie impérissable. Donc il faut empêcher cet homme d'avoir une vie impérissable. Donc c'était bien un arbre de vie qui donnait une vie impérissable. Et on est un petit peu obligé de penser que c'était une vie différente de la vie animale. Donc, c'est forcément, a priori, la vie spirituelle. Donc, dans le jardin d'Éden, avant même qu'il y ait désobéissance, Dieu nous révèle qu'il y avait différentes sortes de vie. Les vies végétales, animales, représentées par les végétaux, les animaux et les hommes. Et puis, la vie spirituelle, représentée par deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre du choix entre ce qui est bien et mal. L'un fournissait la vie spirituelle, l'autre fournissait la mort spirituelle. On dirait, c'est pas vraiment la vie, la mort spirituelle. Mais au fait, le Dieu de l'univers, il nous avait créés pourquoi? Pour rien. Hein, on a l'impression, quand on entend dans ce monde, la création, elle est faite puis point, elle est là, et puis c'est pour rien. Non, c'est pour quelque chose. Il y a au moins trois choses pour lesquelles Dieu nous a créés. Il nous avait créés pour régner avec lui. Et ça, on le voit dans l'Apocalypse, au chapitre 22. Hein, et au verset 5, il est dit, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que Dieu sera leur lumière. Car le Seigneur sera, les éclairera et ils régneront pour l'éternité. Et on sent qu'il y avait déjà en germe dans le jardin d'Éden, puisque l'homme était destiné, l'être humain était destiné à dominer sur tout, qu'il y avait ça en germe. Donc, premier point, il nous avait créés pour régner avec lui. Deuxième point, il nous avait créés pour le représenter sur terre. Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'être humain à notre ressemblance, hein, à notre image, mâle et femelle, hein, et qu'il soit comme s'il était Dieu sur la terre, gérer et dominer la terre. Voilà. Donc, il avait créé aussi pour le représenter sur terre. Et troisième chose qu'il nous avait donné, hein, il nous avait créé pour se révéler à sa création. On le voit, par notre intermédiaire, eh bien, la création aurait vu la grandeur de Dieu. Et on se voit dans l'idée de la sagesse infiniment variée de Dieu. Hein. Il nous est dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 5 et 6, le mystère de Dieu a été révélé, les hommes sont héritiers de Dieu, et les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc il y avait au moins trois éléments créés pour régner avec lui, créés pour le représenter et créés pour révéler. Voilà. C'était merveilleux. Et on va s'arrêter là et on va revenir donc à l'histoire de ces hommes dans la Genèse. Adam et Ève, ils n'ont pas répondu à cette vocation. Hein ? Créés pour régner, créés pour représenter Dieu, pour le révéler à la création. Ils n'ont pas répondu à cet appel. Et nous, et moi, est-ce que je vais répondre à cet appel aujourd'hui ? Est-ce que je veux régner avec lui ? Est-ce que je veux le représenter ? Ah, on est toujours dans la même situation. Explique-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils avaient l'arbre de vie, la vie éternelle, ils avaient la communion de Dieu, la vie spirituelle quotidienne. Quelqu'un vient les voir, et vous savez ce qui s'est passé, et les questionne sur la signification du commandement au sujet de l'arbre du choix du bien et du mal. Et la question posée est subtile. Avez-vous bien compris ? Pouvez-vous faire confiance à Dieu ? Oh, je souffre avec vous de ce que Dieu ne vous donne pas le rang que vous méritez. Les trois points. Première erreur, la femme parle. C'est une erreur, la femme parle. Elle n'aurait pas dû parler. L'homme se tait, c'est une erreur, il aurait dû parler. L'homme devait, par sa préséance, devait répondre au lieu de laisser sa femme parler. Et la femme devait, par prééminence, attendre que l'homme réponde. Pourquoi ? Parce que la prééminence est celle de Dieu sur sa création. Que la prééminence la prééminence, c'est celle de l'homme sur la femme. Et c'est de Christ sur son Église. Et c'est toujours la même chose. On est toujours dans le même système. Et deuxième erreur, et là, elle est fatale, on le sait, c'est la comparaison. Et j'en reviens à ce qu'on nous disions tout à l'heure. Premier amour, deuxième amour, le bord, l'autre bord. Et ici, il y a l'arbre 01 et l'arbre de vie. Je dis l'arbre 01 parce que c'est un peu basique, vous voyez. C'est un petit peu informatique. Hein. Tu vois, c'est 0 ou c'est 1. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Oui, mais attends, c'est pas tout à fait bien parce que ça peut être mal aussi. Oui, c'est du 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Enfin, finalement, on s'y retrouve plus. L'arbre du bien et du mal, nous sommes incapables de le gérer facilement. L'arbre qui me permet de s'assumer, de prendre le volant de ma vie, ou le manche à balai, hein, vous voyez ce que je veux dire, ou encore autre chose. Et puis, le goût et l'aspect de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est particulièrement intéressant. Il est équivalent ou même supérieur à la communion avec Dieu. Et il y a donc une comparaison qui est faite sur deux points. L'arbre permet de s'assumer. L'arbre de vie, vie impérissable, permet-il de s'assumer? Et puis, le goût de l'arbre et de la connaissance du bien et du mal est tellement bien que finalement, le goût de la communion avec Dieu, bon, c'est banal. Et j'explique ça parce que je le ressens comme, enfin, je ressens comme ça. Je ne veux pas dire que hein, je vais justifier cet arbre de la connaissance du bien et du mal, du choix entre le bien et le mal, 0-1, comme étant le meilleur. Non, mais il y a de ça. Or, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous vous souvenez dans quelles circonstances ça a été dit. Je décide parce que j'ai faim. Je vois des pierres et je vais dire, tiens, ben, j'ai tout à fait la légitimité de changer ces pierres en pain, puisque j'ai faim. Et l'ennemi est venu voir Jésus à un moment où il avait vraiment faim, hein, forcément, et ça me paraît légitime. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ce que Jésus transforme ces pierres en pain, puisqu'il avait vraiment très faim? On sent que le Seigneur Jésus ne voulait jamais dépendre de ses propres choix, mais de dépendre du Seigneur, de Dieu, même dans des situations d'un stress terrible, quoi. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Hein, je comprends ça pour moi. Parce que quand on est dans la détresse, pas qu'on est assis sur notre chaise ou debout devant vous comme ça, ça va, là, on n'est pas embêté. Mais quand on est en Afghanistan ou dans d'autres situations et qu'on aime le Seigneur et puis qu'on est en train de se faire torturer, j'imagine qu'on n'est pas dans la même situation et qu'on a tendance à choisir l'arbre du choix entre le bien et le mal que de choisir l'arbre dans lequel on dépend. Hein. Et donc, on est toujours dans cette dualité et même si on est des vieux chrétiens, je dirais des anciens dans la foi, on est toujours sollicité par ce genre de choses. Alors l'arbre 0-1, c'est quoi? C'est nous avons accaparé le pouvoir. Ça finit comme ça. On a accaparé le pouvoir, on décide, on a raison de décider, car on est responsable, on doit être responsable. Donc être responsable, c'est décider, et comme j'ai raison, j'ai forcément pas tort. Voilà. Bon, et je fais ce que je veux. Voilà. Moi, quand j'étais adolescent, je voulais être architecte naval. Je voulais construire des bateaux. Puis j'ai analysé ça, je me suis dit, mais pourquoi tu voulais être constructeur de bateaux? Moi, bon, c'est pas compliqué. J'étais dans l'arbre 0-1. Qu'est-ce que je faisais? Je voulais un bateau, naviguer sur mon bateau, seul sur l'océan, et puis les autres, ils peuvent mourir tous les autres bateaux. Moi, je fais ma vie, à moi. Je fais ce que je veux. C'est moi qui tiens la barre. Et voilà. Je crois que c'était, dans mon adolescence, cette volonté de dire, tiens, moi j'ai choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis assez intelligent pour comprendre que je peux choisir ma vie et que je puisse faire ce que je veux. On sent que Dieu ne pense pas comme ça. Je décide de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et vous voyez ce que ça donne. Les conflits d'intérêts, les conflits de vision d'avenir, les questions de la vie quotidienne dans le couple, ou au plus haut niveau de l'État, tout partout, c'est comme ça. Et l'arbre de vie dit tout autre chose. Il dit la nourriture solide, écoutez bien, la nourriture solide est pour les hommes et les femmes faits, les hommes faits, les femmes faites, si vous voulez, bien construits. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, de ce qui est mal. Hébreux chapitre 5, verset 14. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais sachez, enfin, hein, par le renouvellement de l'intelligence, que vous puissiez discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Mais qu'est-ce qui est intéressant à pointer dans ces versets-là? Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, c'est par l'usage. Par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais comment on peut, par l'usage, discerner ce qui est bien de ce qui est mal? En étant connecté à quel arbre? Forcément, à l'arbre de vie. Ce qui veut dire qu'il fallait attendre. Il fallait attendre. Dieu aurait probablement autorisé plus tard la consommation de cet arbre. Probablement. Mais il fallait d'abord du temps pour être nourri spirituellement. Et en étant nourri spirituellement, on n'est plus dans le 0-1. On sait très bien, à un moment donné, si on fait la volonté de Dieu ou pas. Alors, avoir une communion spirituelle avec Dieu, très longue, et une habitude de se nourrir de l'arbre de vie pour pouvoir juger des choses. Et c'est ça qui leur a manqué. C'est ça qui les a tués. Nous avons décidé que nous étions propriétaires de notre vie et de la création. Et vous me direz, c'était presque fait. Il n'y avait plus qu'un arbre dont on n'était pas propriétaire. Donc, voilà. Il n'y avait plus qu'un arbre. Et nous avons affirmé notre toute-puissance pour nous préoccuper de. Sans nous préoccuper de la prééminence de Dieu. Sans nous préoccuper de la prééminence de l'arbre de vie par rapport à l'autre. Dieu exclut du projet. Chacun a son projet. Et puis, quelquefois, c'est Dieu doit s'y soumettre. C'est Dieu qui se soumet à notre projet. Balaam, son projet n'était pas très ragoûtant. C'était gagner de l'argent, hein. C'était son projet. Mais Job, par exemple, il avait aussi des projets. Vous savez, il nous en est parlé. Et Job avait des beaux projets. Mais ce n'étaient pas les projets de Dieu. Mon église doit fonctionner de telle manière. Et Dieu doit s'y soumettre. Vous voyez, on peut avoir dans toutes les situations des façons de voir qui sont plutôt arbres 0-1 que arbres de vie. Un exemple, ce n'est que quand le Saint-Esprit dit à l'église d'Antioche que Paul et Barnabas peuvent partir, qu'ils vont s'en aller. Ce n'est pas eux qui décident. À un moment donné, et ça met du temps, et ben voilà, maintenant vous pouvez y aller. Nous avons confondu exercice du pouvoir et domination, exploitation des ressources naturelles sans vision d'ensemble. On n'est pas inquiet de ce qui se passe pour les animaux. Finalement, on finit même par dire que Dieu, il est responsable de tout ça. Vous voyez le système dans lequel c'est parti. En conclusion, mieux vaut chercher l'arbre de vie. Hein. Ça, c'est, on sait. Hein. L'arbre de vie, c'est quoi? Eh bien, on va le lire. Et on va lire un long passage qui parle de l'arbre de vie. C'est dans Jean, chapitre 5, et versets 19 à 30. Jean 5, 19, 30. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il est vraiment celui qui donne la vie, une vie impérissable qui va plus loin que la mort. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, deux fois il dit en vérité. Quand il disait dans le jardin d'Éden, Dieu il disait Manger, tu mangeras. Hein, de tous les arbres, hein, Paul nous l'avait rappelé, tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. C'est-à-dire, certainement, tu peux manger de tout. Ne t'inquiète pas, tu peux manger de tous les arbres qu'il y a là. Par contre, il y en a un, sauf un, et celui-là, si tu y touches, mourir, tu mourras. Et donc, c'est certain. Voilà. Donc, c'était très clair. Hein, c'était très clair. Et donc, au verset 20 hein, de Jean, hein, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il dit ça à des pharisiens, qu'ils comprennent, ces pharisiens, que dans Dieu, il y a des choses. Il y a un Père, il y a un Fils, et il y a aussi un Saint-Esprit, bien sûr. Et là, on sent qu'il est en train d'insister sur quelque chose qui avait l'air de ne pas être bien perçu dans le monde hébraïque de l'époque. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc la parole de Dieu, cet arbre de vie, avait un pouvoir de donner une vie impérissable. En vérité, verset 25, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc c'est ça l'arbre de vie. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Il insiste, mais particulièrement sur ce pouvoir de sa vie qui est capable de sortir les morts de leur tombe. Verset 29, bien sûr. Hein. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus, en tant qu'homme, était lié à l'arbre de vie. Il est en même temps lui l'arbre de vie, mais il ne faisait jamais quelque chose d'indépendant, d'autonome. Comme on l'entend, autonomie, indépendance, liberté, égalité, fraternité, enfin bon, et je fais ce que je veux. Et il n'y avait plus de référence à quelque chose de supérieur à sa propre raison, à son propre jugement, à soi. Voilà. Mais alors, comment est en communion avec l'arbre de vie? Vous savez, dans le Deutéronome, il était dit... Je rappelle simplement que Moïse disait que l'Éternel Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. Et donc ils devaient savoir que Moïse leur en avait parlé, mais Moïse parlait de Jésus d'une autre façon, parlait du Fils d'une autre façon, hein. Parce qu'au verset 37, vous voyez au verset 37, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Sous-entendu, je ne suis pas sur l'arbre 01, mais sur l'autre. Mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez, puisqu'il correspond à l'arbre 01. Il correspond à ce que vous êtes. Et qu'est-ce qui se passe? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Et c'est ce qui se passe. On le voit, si on est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est à celui qui sera le premier. Or, le Seigneur nous a dit que nous sommes le plus grand des pécheurs. Chacun. La mathématique de Dieu est différente de la nôtre, enfin, de celle que nous voyons dans ce monde. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? C'est un peu ce que Greg nous a dit tout à l'heure. L'orgueil tue. Et qui ne cherchait pas la gloire qui vient de Dieu seul? C'est-à-dire que c'est bien dit cette histoire. C'est que on recherche la gloire de Dieu. Mais en même temps, Dieu nous donne sa gloire. Donc, si vous recherchiez la gloire qui vient de Dieu seul, vous auriez la gloire de Dieu. Et cette gloire que Dieu a et que vous exaltez, elle vient sur vous aussi. Vous qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est celui qui est mort depuis longtemps et qui ressuscitera. C'est Moïse. Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit à mon sujet. Bah oui, l'arbre de vie c'est lui. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Moïse déjà avait parlé de lui dans des termes si clairs, c'est lui qui donne la vie impérissable. Alors, mais comment être en communion avec l'arbre de vie? Par deux choses qui sont importantes, il n'y en a pas qu'une. La première, c'est en faisant la paix avec lui par sa croix. C'est ce qui nous est dit dans Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Hein? Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, Il a voulu par lui, hein, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, nous est-il dit, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est terrible. On a l'impression que parce qu'il y a eu un choix au départ dans le jardin d'Éden, terrible, celui d'Adam et Ève, il y a dû avoir un rééquilibrage fait par Dieu, terrible. Dans, vous avez jamais remarqué ça? Dans ma vie, quand j'ai péché avec le Seigneur très fort, il m'a repris terrible, dans un autre sens. C'est que lorsque nous sommes en intensité de désobéissance très forte, le Seigneur est obligé, je veux dire, le Seigneur est tout puissant, mais c'est pas lui qui est obligé dans le sens où il est contraint, mais son amour le contraint à créer quelque chose qui va nous ramener à lui, qui lui aussi est intense et très difficile. Les choses ont été beaucoup plus écrasantes et plus difficiles pour l'arbre de vie que ce qui n'était prévu. Déjà dans l'arbre de vie, il y avait cette et l'arbre de la connaissance du bien, il y avait une situation où il y avait un stress pas forcément très fort, mais une sollicitation de la part du serpent, de Satan. Ève était là, Adam avec, hein, il était à côté. On va plus dire que c'est la faute à la femme, hein, c'est la faute à l'être humain. Hein, et ils étaient à deux, et ils étaient dans une sollicitation. Il y a quelque chose qui venait les solliciter. Mais il y avait l'arbre de vie à côté. Il y avait l'arbre de vie à côté. Je suis persuadé que si l'arbre de vie était au centre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne devait pas être loin. Hein. Alors voilà. L'intensité de la faute a créé l'intensité de l'expiation. Elle devait exister déjà en principe, parce que l'arbre de vie, c'était Jésus qui était planté sur terre, qui était déjà venu, si on veut, sur terre, en Éden, et qui était déjà là en train de donner sa substance, donner sa vie. Alors ça, c'est le premier point. En faisant la paix avec lui, par sa croix, c'est ce qui nous est dit dans 1 Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Et puis, deuxième chose, celle-là, elle est plus importante. Excusez-moi, c'est quand même important que le salut en Jésus-Christ nous ait été donné par le sang de Jésus. Mais ce n'est pas la seule. Je vous assure, ce n'est vraiment pas la seule chose qui est importante. Il y en a une deuxième qui est tout aussi importante. C'est en cherchant sa volonté. C'est en cherchant sa volonté. Ça nous a été dit par tous les frères et sœurs qui nous ont parlé. En cherchant sa volonté. Mais comment ? Alors là, c'est un petit peu délicat à en parler. Parce que, est-ce que je vais réussir à expliquer ce que je ressens ? Et je ressens peut-être moi-même très mal. Bon. Voilà. Vous connaissez ce verset qui est mystérieux et en même temps clair, de Jean chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix. »« Mes brebis entendent ma voix. » »« Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Et le portier lui ouvre. Les brebis entendent la voix du Seigneur, elles ne suivront pas un étranger, et elles fuiront loin de lui, parce qu'elles connaissent la voix du Seigneur. Mais c'est quoi la voix du Seigneur? C'est quoi? C'est la Bible, c'est quoi? Je vais sortir un verset, j'ouvre ma Bible au hasard, puis pouf, je tombe sur le verset que Dieu veut me donner. Non, c'est pas ça. Dans Jean chapitre 10, verset 9, il nous est dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça veut dire le salut en Jésus-Christ. Il entre par Jésus, il a accepté le salut en Jésus-Christ, il est sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il peut sortir, il peut rentrer, il peut faire ce qu'il veut, il est libre. C'est-à-dire que le fait de s'inféoder, ce terme sans côté négatif, s'inféoder sans terme négatif, hein, parce qu'on peut le considérer comme... La féodalité, c'est pas ça, c'est le Seigneur, et c'est lui, c'est le vrai Seigneur. S'inféoder au Seigneur nous permet d'être réellement libres. D'ailleurs, c'était dit aussi dans d'autres passages, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Donc, s'inféoder au Seigneur, mais comment? Par l'arbre de vie, mais comment? Il trouvera des pâturages, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que Jésus, là, il parle à des gens qui connaissent la Bible par cœur, vous voyez. Alors, quand il parle de pâturage, il parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans quoi? Dans de verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est-à-dire que c'est une histoire de longue haleine. C'est une histoire de communion avec Dieu qui se fait petit à petit. qui se fait lentement, avec des hauts, des bas, des chutes, des relevements, et puis voilà. Et donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être dans le repos. Hein ? Il faut être dans le repos. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part, le jour du repos de l'Éternel. Alors, c'est dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, vous connaissez, les Hébreux devaient s'arrêter dans le calme et lire la Torah et les prophètes. Ils devaient, c'est un terme un petit peu malpropre, ils devaient, non pas dans le sens de devoir, mais dans le sens que logiquement, ils devaient être attirés par le repos de Dieu qui consiste à se nourrir de la parole de Dieu. C'est simple, c'est clair, et ça veut dire surtout le repos. Alors je dis pour moi-même, quand je suis dans le repos, j'ai envie de faire quelque chose. Quand j'ai envie de bricoler, comme beaucoup bricolent, font leur carrelage et tout, puis finalement, il faut quand même, à un moment donné, on s'arrête, quoi. Parce que surtout quand on est pris dans du boulot, et comme on est dans une société occidentale qui nous prend dans le boulot, on n'arrive jamais à trouver un créneau. On dit, ah, je vais faire ça pour le Seigneur. Ah, il faut quand même que je dois quand même avoir un moment de communion avec le Seigneur. Puis ça devient presque un devoir parce qu'on se dit, entre aller chercher l'enfant à l'école et puis faire la popote à la maison, madame, enfin, n'importe qui, on se retrouve dans un système où on oublie de se reposer. Donc, comment être en communion avec l'arbre de vie, je dirais, en cherchant sa volonté? Plus prosaïquement, ça pourrait être pour trouver un moment de repos. Et puis ne rien faire. Hein? Comme le cancre au fond de la classe avec près du radiateur. Hein? Mais là, il écoute pas le maître ou il est en train de rêver. Là, c'est pas le cancre qui est au fond de la classe près du radiateur. C'est le frère ou la sœur en Christ qui s'arrête et qui, le radiateur en question, c'est sa parole de Dieu. C'est ce qui réchauffe le cœur. Voilà. Hébreux chapitre 4, versets 7 à 17, et ce sera le dernier verset que je vous propose de lire. Hébreux 4, 7 à 17, 7 à 13, pardon. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, c'est pour les non-chrétiens ça. Ben non, je ne pense pas que c'est pour les non-chrétiens, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est qu'à un moment donné, je suis irrité parce qu'il m'est arrivé un pépin, je ne sais pas quoi. Et puis, Seigneur, tu aurais pu faire autrement quand même. Parce que vraiment, tu vois. Puis après, je lui dis, mais Seigneur, excuse-moi, je te demande pardon. J'ai pensé ça. Mais voilà. Je vais m'apaiser. Je vais me mettre dans le repos spirituel. Je vais m'arrêter. Et je vais t'écouter. Car si Josué, verset 8, avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. À plus forte raison, si Dieu prend du repos, pourquoi nous on ne prendrait pas de repos, hein ? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La désobéissance est liée au manque de repos. Est-ce qu'ils étaient fatigués, Adam et Ève, quand le serpent est venu les voir ? Est-ce qu'ils étaient en train de gérer, je ne sais plus, quelque chose d'important dans le jardin? Je ne sais pas, je ne sais pas. On peut imaginer que Satan, il cherche plutôt l'endroit qui l'intéresse, le temps où il sera plus performant. Je ne sais pas. Hein. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Là, on va pouvoir juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. Comprenez? Il y a des choses, on pense que c'est bien et finalement on se trompe. Excusez-moi, j'ai un témoignage à donner, Marie n'est pas là, Marie-France, de ce genre. Il faut aller au culte dimanche. C'est sûr, c'est ce que le Seigneur nous demande. Donc je vais au culte. Alors je reviens de chimio, j'étais très malade à l'époque. J'arrive le samedi et Daniel, mon premier-né, était né. Et ma femme était assez fatiguée, couchée, avec le petit à côté. Je ne pouvais même pas porter le petit, tellement il était lourd, 3 kilos, tellement j'étais fatigué. Mais elle me dit, demain, dimanche, tu seras là? Tu viendras? Ah non, je vais aller au culte. Et puis finalement, ma place, c'était pas d'aller au culte. Ma place, c'était d'être près de ma femme, et puis de l'aider avec ce petit bébé. d'être ensemble à trois. C'était le dimanche. Le dimanche, je devais aller au culte, parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on est spirituel. Vous voyez ? Non, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'étais pécheur à ce moment-là en allant au culte. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert à celui, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez ? On a quelquefois des choix à faire de ce qui est bien et de mal qui semble contraire à ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, si, on sait très bien, finalement, qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Si ton fiston, qui en adolescence, veut que tu viennes au foot dimanche matin au lieu du culte, peut-être que c'est mieux que d'aller au culte. J'ose le dire. Bon, évidemment, si c'est tous les dimanches, ça ne va plus. Mais ça peut être ça. Le Seigneur peut vous guider, me guider, en me disant, tu sais ça, non, tu as l'habitude de faire ça, tu crois que c'est comme ça qu'il faut faire, mais finalement, la parole de Dieu, le temps de repos, te donne à un moment donné dans la tête l'impression que c'est plutôt ça que Dieu te demande que cela. Et c'est subtil, c'est très subtil. Contempler les œuvres qu'on a fait la semaine, oh, qu'est-ce que j'ai travaillé cette semaine ? Ah ouais, il y a des choses à refaire, etc. Et puis finalement, dans la semaine, je me suis trompé. Mais si je me mets en repos, je saurai ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites. Et le Seigneur va m'éclairer. Et moi, dans le calme, je comprends ce que Dieu me dit. Et Dieu a fait la même chose. Il a contemplé ses œuvres et il s'est reposé le septième jour. Alors, à plus forte raison nous, n'est-ce pas ? Et si une brebis ne s'arrête jamais, il lui est impossible d'entendre le son de la voix du bon berger. Parce que ce son, c'est un murmure doux et léger qui ne va jamais s'imposer. Hein ? Avec Élie. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Je vous propose de prier et je vous encourage à être dans un repos actif, bien sûr. Ce n'est pas question d'être le cancre au fond de la classe, près du radiateur. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas ? Mais c'est d'être dans le repos et de savoir ce que Dieu veut à tout moment. Et alors, on devient libre. On peut sortir, on peut rentrer, on peut comprendre. Et on comprend plein de choses. Et il est dit que les chrétiens, enfin les gens qui sont fidèles à Dieu, comprennent beaucoup de choses. Et c'est vrai, mais sans orgueil. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous parle de choses subtiles dans lesquelles nous, chrétiens, on peut encore tomber, où on pense faire ce qui est bien sans avoir pris le contact avec toi. Seigneur, nous te demandons que tu nous gardes dans toutes nos activités en tant qu'occidentaux, dans toutes les devoirs d'action que nous sommes, à laquelle nous sommes appelés. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes du repos spirituel, du repos dans ta communion. Et que nous soyons toujours connectés à l'arbre de vie, sans aller tout le temps retourner à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seigneur, je veux m'humilier devant toi, parce que comme l'a dit Greg, c'est vrai, le problème que j'ai et que nous avons tous, c'est de revenir en pleine humilité, en nous humiliant devant toi, en voyant tout ce que tu as fait pour moi, pour nous tous. Et à ce moment-là, tu rentres en contact avec nous. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Par ton Fils, notre bien-aimé Sauveur, qui est mort et qui nous a réconciliés par le sang de sa croix. Au nom de ton Fils, Amen.